À partir du moment où on considère que quand on enseigne la coiffure, on n'enseigne pas les cheveux frisés crépus, c'est un message social qu'on envoie à toutes les populations qui sont pas seulement afro-descendantes, parce que c'est beaucoup plus large que ça, mais il y a un message social derrière qui est de dire « vous n'existez pas ».
Bonjour, bienvenue sur Beauty Toaster. Pour ce nouvel épisode, je reçois Aude Djampou Livoreille. Maman de trois enfants métis, dont une petite fille, Aude milite pour qu'on apprenne enfin à coiffer les cheveux afro, ici, en France. Car oui, contrairement à ce que l'on pense, le cheveu afro n'est pas toujours le bienvenu dans de nombreux salons. Je parle d'expérience. Pour une bonne et simple raison. On ne sait pas faire, on n'est pas formé. En 2016, Aude a créé le salon et centre de formation ANAE. Un salon qui coiffe tous les types de cheveux, comme elle aime à le dire, des plus raides aux plus frisés. Parallèlement, cette ex-chimiste, jeune diplômée d'un BTS coiffure, se bat pour la mise en place d'un diplôme national de coiffure incluant la spécificité capillaire afro. Mais comme toujours, lorsqu'il s'agit de faire bouger les lignes, les choses traînent. Qu'à cela ne tienne, cette battante ne lâche rien, vous verrez. Car derrière sa voix douce et son combat pour la formation, se cache bien plus qu'une histoire, qu'une banale histoire de cheveux crépus. Alors à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Aude.
Bonjour Chantal.
Comment êtes-vous arrivée à travailler sur la formulation de produits pour les cheveux ?
Alors ça a commencé quand j'ai fini ma formation en chimie. J'ai fini une thèse à l'université de Strasbourg. Je suis partie faire un stage de recherche au Japon, mais j'avais déjà en tête de travailler pour une grande société de cosmétiques. Et donc j'ai intégré le groupe L'Oréal en 98. Et après 2 ans passés en recherche fondamentale à travailler plutôt sur des molécules pour le maquillage, j'ai commencé à travailler pour des produits pour le cheveu. Et après, j'ai plus jamais arrêté.
Alors comment avez-vous pris conscience de la méconnaissance du cheveu afro en France ?
Toujours quand j'étais chez L'Oréal, j'étais responsable d'une équipe de développement donc qui met des produits sur le marché et j'ai été amenée à travailler en particulier sur les produits pour le cheveu frisé crépus, donc lissage et défrisage. Et j'étais en coordination avec les équipes américaines de l'époque, puisqu'à l'époque L'Oréal avait un centre à Chicago qui faisait de la recherche fondamentale sur le cheveu crépus. Je suis donc allée travailler avec eux et je les ai vus travailler. On a visité des salons et j'ai été émerveillée du niveau technique de la maestria vraiment des coiffeurs qui travaillaient dans cette équipe et qui travaillaient dans les salons qu'on a visités. Et quand je suis revenue en France, la différence m'a paru assez grande en termes de technique. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait vraiment une différenciation dans le niveau des coiffeurs professionnels. Et quand je suis allée au Brésil quelques années après, donc en 2006, là aussi, j'ai constaté un très, très grand savoir-faire. Là, sur une variété de boucles extrêmement grande et avec des pratiques, des rapidités d'exécution et surtout des précisions de diagnostic très, très impressionnantes. Donc à ce moment-là, j'avais ma fille qui était née, donc qui est métisse, avec des petits cheveux bouclés, très différents des miens qui sont très raides. Et là, je me suis dit, mais comment avoir ce savoir-faire américain et brésilien en France ? Donc j'ai commencé à travailler sur les produits, mais avec en tête tout de suite cette préoccupation du niveau de formation des coiffeurs.
D'accord. Et donc vous avez décidé de quitter L'Oréal, d'ouvrir votre propre salon, ANAE. C'était pas plus simple de lutter de l'intérieur, disons, en poussant à la création de produits spécifiques,
Alors, il y avait déjà des produits spécifiques, mais il y avait des problématiques de gestion de taille de marché, parce que quand une affaire plus petite est à l'intérieur d'un groupe qui en comporte plus de 25 aujourd'hui, dont certaines sont des mastodontes, comme L'Oréal Professionnel, c'est très très compliqué pour une petite marque de faire avancer ces sujets ou d'être prioritaire dans les sujets de recherche parce que les grosses marques sont à côté et occupent le territoire et ça se comprend. Donc en interne, j'ai essayé de développer des choses, de lancer des produits, de faire réfléchir sur l'impact de ce marché et le potentiel de ce marché. Mais ça n'avançait pas suffisamment vite et surtout ça n'abordait pas la question clé qui était la formation des coiffeurs puisqu'on peut développer les meilleurs produits du monde. Si les coiffeurs ne sont pas formés, ça ne sert à rien.
Et du coup, alors il existe quand même plein de salons afro à Paris surtout. Quelle est votre valeur ajoutée, vous, chez ANAE ?
Alors déjà, sur le plein de salons afro, un chiffre. En France, il y a un salon pour 1000 personnes pour cheveux raides ondulés, ce qui est plus que les boulangeries. Donc on a une densité de salons de coiffure très élevée. Même si on intègre dans le compte les salons dits afro, et en particulier les salons de Château d'Eau, qui ne sont pas forcément très qualitatifs, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas bien faire leur métier, même si on tient en compte tous ces salons, on a une proportion de un salon pour 250 000 personnes.
Ah oui, donc, c'est
donc de toute façon, il n'y en a pas assez.
Ouais, il y en a pas assez.
Donc, quel que soit le niveau des salons considérés, il y a un énorme manque, il y a plus de 90% des besoins qui ne sont pas adressés. Donc déjà, il faut des salons. Donc, et les salons sont en train de se créer parce que ce besoin est identifié par plusieurs personnes, donc des salons de plus en plus qualitatifs apparaissent. La distinction de Studio Anae, c'est de ne pas faire de distinction entre les cheveux. C'est-à-dire, ce n'est pas un salon afro, mais ce n'est pas non plus un salon pour cheveux raides bouclés. C'est un salon pour tout le monde. Et on a une clientèle aussi bien d'origine asiatique que d'origine africaine. Et c'est d'essayer de ne pas séparer les gens par origine ou par type des cheveux, mais de faire notre métier de coiffeur en abordant toutes les textures de cheveux.
Et donc, votre combat pour intégrer une formation pour les cheveux, et spécifiquement les cheveux frisés et crépus, a commencé, je crois, en 2016. Enfin,
2015.
En 2015. Ouais. Vous en êtes où ?
À nouveau le contexte. Aujourd'hui, il n'y a aucune formation sur les cheveux frisés crépus dans aucun diplôme national, que ce soit le CAP, le BP, le BTS ou le brevet de maîtrise. Il y a une mention très courte du défrisage en brevet professionnel, ce qui est un peu dommage parce que ça assimilerait le cheveu crépus à une obligation de défrisage, ce qui ne correspond pas du tout à ce que les personnes souhaitent. Donc, il n'y a rien du tout aujourd'hui. Donc, quand j'ai rencontré le ministère de l'Éducation nationale et la Fédération de la coiffure, j'ai été plutôt bien reçue et écoutée. J'ai amené des chiffres, des perspectives d'emploi, une proposition de contenu. Après, on rentre dans une machine administrative. Donc, la commission de la branche paritaire, donc les professionnels élus qui représentent la branche coiffure, m'ont audité et ont commencé à se réunir, notamment à partir d'octobre 2016, de façon régulière pour penser à la création d'un diplôme qui, en première approche, pourrait être un diplôme complémentaire, optionnel, qui viendrait s'ajouter
D'accord,
aux formations
à la
de coiffure.
Formation classique.
Oui, parce que la loi reste inchangée. Pour exercer le métier de coiffeur, il faut un minimum un CAP. Et si on veut avoir son propre salon, il faut un brevet professionnel. Donc ça ne dépend pas de la nature de cheveux, et ça ne changera pas, puisque M. Macron a renforcé cette loi. Donc, il faut toujours, à minimum, un CAP coiffure. Par contre, c'était intéressant de rajouter sur les formations existantes une partie optionnelle de quelques mois pour que les gens puissent juste apprendre le petit bagage complémentaire nécessaire pour aborder le cheveu frisé crépu. Ça a plutôt avancé. Après, j'ai assisté à un certain nombre de réunions, je faisais partie de l'équipe rédactionnelle, on m'a demandé mon avis et mon expertise sur un certain nombre de sujets. Je n'ai pas de nouvelles depuis le mois de mai de l'année dernière, donc ça fait 8 mois.
D'accord.
Je ne sais pas encore si le format que j'ai proposé a été retenu, si tous les domaines de coiffure qui devaient être couverts, c'est-à-dire bien sûr la coloration, le balayage, en fait tous les gestes techniques classiques qui sont juste à translater sur le cheveu frisé crépu, mais aussi les coiffures dites protectrices, les nattes, les tissages, les locks, le coiffage du cheveu crépu naturel qui est très important aujourd'hui. J'ai fortement appuyé pour que ce soit inclus dans le programme, mais je n'ai pas de retour, à ce jour. Je ne sais pas si le timing et un timing avait été proposé pour qu'un diplôme soit enregistré au registre national de la certification professionnelle fin 2007, peut-être début 2018. Là, je n'ai pas de retour et je n'ai plus de nouvelles. Donc, j'espère que ça continue. Mais de toute façon, il y a d'autres chemins que j'explore personnellement. On va venir en relais.
Ouais. Parce que c'est quand même pas facile de faire bouger les lignes de l'éducation nationale.
Ça pose plein de problèmes. Ça pose plein de problèmes parce que comme on part de rien, il n'y a même pas de professeurs, il n'y a pas de livres, il n'y a rien. Donc c'est une situation assez rare, mais du coup c'est une situation très complexe parce que des écoles m'ont contactée. Moi j'ai fait une tournée des écoles de coiffure au printemps 2017. Je suis allée rencontrer des professionnels dans les écoles pour parler de la coiffure des cheveux frisés crépus et montrer qu'elle se développait énormément en Angleterre, aux États-Unis, avec des collections, avec des choses qui sont sublimes, pour donner quelque part envie aussi. Et les professionnels, les professeurs m'ont contacté par la suite. Ils ont très envie de se former, mais ils manquent de moyens. Ils n'ont pas forcément les budgets. Et ils se tournent vers qui ? Qui va former ? Donc, ils se sont tournés vers mon centre de formation, vers d'autres endroits, mais ils n'ont pas toujours les budgets pour le faire. Donc, ça pose un vrai problème. Donc, il n'y a pas que le diplôme, en fait, qui est un problème, c'est qu'il y a tout à construire, que le temps passe, que les gens demandent et à raison d'avoir des salons de coiffure bien formés, professionnels, et que notre système a du mal à aller rapidement vers une solution.
Malgré les bonnes volontés. Parce qu'il faut savoir aussi qu'effectivement, Anaé a aussi un salon de formation, un centre de formation.
Tout à fait, c'est au même endroit. Donc j'ai voulu avoir les deux parce que je voulais faire la démonstration que le salon multitexture était une réalité qui fonctionne numériquement, financièrement, qu'on peut faire tourner un salon de toute origine, enfin avec les cheveux de toute origine et de toute texture, et que c'est un concept moderne qui plaît. Donc ça, c'est très important. Il faut faire la démonstration de ce qu'on dit. Et le deuxième point, c'est que c'est un centre de formation enregistré à la préfecture, avec qui est même certifié au titre de la qualité, puisque la nouvelle loi sur la formation continue est entrée en application l'année dernière, et que j'ai pu passer en 2017 toutes les certifications nécessaires. Donc, on est validé sur le Datadoc et certifié ICPF PSI. Oui, c'est un gros travail dont je suis fière.
Ah oui, vous pouvez. Ouais.
Oui, parce que l'idée, c'est de tenir la politique de la qualité jusqu'au bout.
C'est ça.
Et ça va aussi dans les formations. Aujourd'hui, dans la formation continue, on rencontre de tout. Et le gouvernement a souhaité, le précédent gouvernement a souhaité y mettre un peu d'ordre en lançant cette loi sur la formation continue de 2015, qui est rentrée en application au 1er janvier 2017 et qui oblige les centres de formation à avoir des formateurs formés à la formation, pas seulement des experts métiers, formés à la qualité et qui ont une traçabilité de leur politique de qualité. Donc ça change beaucoup, bien sûr. Exactement.
Ouais, on n'est plus dans l'improvisation, dans le bricolage.
Exactement. C'est-à-dire que, et c'est normal aussi, quelqu'un qui va s'inscrire pour un stage, une formation, a le droit à avoir un contenu défini par avance, le formalisme de la loi qui est parfaitement respecté, et puis qu'on s'engage à ce qu'il soit satisfait à la fin, ce qui n'était jamais fait aujourd'hui. Aujourd'hui, la satisfaction de l'apprenant fait partie des critères qualité qui sont demandés par la loi. Donc ça oblige à travailler de façon qualitative pour son client qui est l'apprenant.
Oui, bien sûr. Et alors vous avez passé votre BTS coiffure.
Oui. Oui.
J'ai appris ça.
Le jour de mon anniversaire, c'était mon cadeau.
C'était votre cadeau.
Oui, parce qu'en fait,
pourquoi
c'était très important pour moi, professionnellement et émotionnellement, parce que ça fait quand même 20 ans que je travaille dans la coiffure. Parce que quand on me demande quelle est ma formation de base, de facto, je devais répondre chimiste. Et on ne voyait pas dans ce simple mot de chimiste toutes les 20 années que j'ai passées à scruter, étudier, apprendre, mémoriser, répéter les gestes des coiffeurs. Donc je me considérais comme une jeune coiffeuse et j'avais envie que ce soit reconnu par mes pairs. Donc la seule façon de le faire, c'est d'aller rentrer dans les arcanes d'un diplôme. Et le BTS, qui est un diplôme assez récent, est intéressant parce qu'il regroupe des éléments qui sont bien sûr coupe, couleur, transformation, donc de la technique de coiffure, mais aussi une connaissance approfondie des produits de la coiffure et une connaissance approfondie du management des unités commerciales. Or, ça rejoint exactement l'activité que j'ai depuis 3 ans aujourd'hui. Et ça me permettait de donner un titre national et officiel à toute mon activité depuis 3 ans aujourd'hui. Et ça me permet d'asseoir une certaine compétence que j'ai acquise sur le terrain, donc c'est important pour moi, bien sûr.
Et en fait, votre combat dépasse un peu le cadre capillaire, non ?
Forcément, parce que à partir du moment où on considère que quand on enseigne la coiffure, on n'enseigne pas les cheveux frisés crépus, c'est un message social qu'on envoie à toutes les populations qui sont, pas seulement afro-descendantes, parce que c'est beaucoup plus large que ça, mais il y a un message social derrière qui est de dire vous n'existez pas. Donc, mes enfants métis existent, ils sont bien présents, ils sont bien français. On a vu dans les débats récents, notamment dans les différentes interventions, dans les débats Yacine Bellatar et autres, qui ont rappelé que la France était plurielle, que les citoyens français venaient de beaucoup d'origines différentes et se revendiquent et complètement à juste titre, des citoyens à part entière. Donc, on ne peut pas continuer à construire la France en la pensant blanche, parce que ce n'est pas comme ça qu'est la France aujourd'hui. Et quand ça se traduit dans l'enseignement professionnel des métiers, il faut aussi aller vers cette pluralité, vers ce côté cosmopolite qui est la France moderne du 21e siècle aujourd'hui. C'est très important, ça pose des vraies questions sur la construction de ce pays. Et la vidéo justement qui expliquait ce concept-là a fait plus de 2 millions de vues en un mois. Donc ça veut dire que ça rencontre des besoins. Il est temps de dire quelle France on est en train de construire et dans quel sens on a envie d'aller et de pas toujours laisser s'installer des porteurs de haine, des porteurs de séparation sociale qui veulent définir qui est français, qui ne l'est pas. Ça suffit. On n'est pas dans ce pays-là. En tout cas, moi, c'est pas le pays dans lequel j'ai envie de vivre et je ferai tout pour que, par des petits aspects que je connais bien en tout cas, qui sont la cosmétique et la beauté, on peut faire avancer les représentations sociales et c'est très important.
Bien sûr. Alors, que rétorquez-vous justement à ceux qui estiment que laisser ses cheveux naturels, ça relève un peu d'un acte militant
J'ai pas d'avis sur la question. En fait, les femmes font ce qu'elles veulent. Je pense que ce serait bien qu'on arrête une fois pour toutes de dire aux femmes ce qu'il faut qu'elles mettent, ne mettent pas, ou comment elles coiffent leurs cheveux ou ne les coiffent pas. On ne s'intéresse pas aux hommes de cette façon-là. Ce qui m'importe, c'est qu'une femme ait le choix. Et qu'elles ne doivent pas faire quelque chose par défaut. Et que si elle prend une option esthétique pour elle, elle n'est pas non plus à choisir entre la qualité et pas de qualité. Donc, je ne dirais pas à une femme, portez vos cheveux naturels, c'est une obligation, vous avez raison, vous avez tort, c'est pas à moi de lui dire. Moi, je mets en place les conditions pour que, quel que soit son choix, elle ait accès à quelque chose de qualitatif. Elle a envie d'avoir des cheveux raides, ça la regarde. Par contre, elle a le droit d'aller le faire dans un salon de coiffure où on maîtrise la technique, on va pas lui détruire ses cheveux, on va pas lui brûler son cuir chevelu, et elle n'aura pas à regretter cette décision toute sa vie. Et à l'inverse, si elle veut porter ses cheveux naturels, frisés, bouclés, crépus, elle a le droit aussi, et elle a le droit d'avoir des professionnels formés qui l'accompagnent dans la vie de ses cheveux au quotidien pour que ce soit un vrai plaisir. Et il ne faut pas rentrer dans des débats idéologiques à dire aux femmes ce qu'il faut qu'elles fassent. Laissez-les tranquilles, laissons-les tranquilles, accompagnons-les dans leur quotidien qui est déjà assez chargé, et essayons de faire en sorte d'exercer notre métier avec professionnalisme et qualité. Et ça sera déjà pas mal.
Ça sera déjà pas mal. Et l'idée de mettre au point vos propres formules, est-ce que ça vous, ça vous parle ou est-ce que vous vous dites non, je suis définitivement sortie de la chimie?
En fait, moi, je suis assez curieuse et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font de très belles choses. Et déjà, avant d'aller faire mes propres produits, j'aime beaucoup explorer ceux des autres. Parce que je trouve qu'il y a des partis pris qui sont extrêmement intéressants. Des marques américaines, des marques brésiliennes, des marques italiennes. Je connais moins le marché asiatique. Je sais que la Corée est un marché qui est extrêmement pointu au niveau capillaire. Alors maintenant, sur les cheveux frisés crépus, peut-être un peu moins, mais c'est à voir. Le marché indien est très intéressant. Donc, il y a des pans de monde entiers à explorer, à découvrir. Il y a des savoir-faire aussi qui sont extrêmement intéressants. Donc, je vois pas tellement la valeur ajoutée d'ajouter mon propre produit dans une masse déjà de produits énormes. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de dénicher les marques intéressantes, de les proposer à mes clients, de les accompagner aussi quelquefois. Je travaille avec des marques dans leur stratégie marketing sur leur déploiement marché et d'essayer de leur faire, de mettre en avant leurs caractéristiques, leurs compétences, leurs points forts. Toujours parce qu'il faut que les femmes, elles aient le choix. Et c'est plus amusant et beaucoup plus fun de passer en tant que consommatrice d'une marque à l'autre et de s'amuser un petit peu et de jongler plutôt que de vouloir pousser une seule marque ad vitam aeternam. Je pense que c'est un marché très dynamique, la cosmétique, et il faut se faire plaisir avec. Donc je me fais plaisir avec les produits des autres.
Voilà, ouais. Et il y en a beaucoup, parce qu'effectivement, on a vu quand même...
Et de plus en plus. On passe d'un marché de l'hémisphère nord à un marché de l'hémisphère sud. Il y a encore énormément de choses à exploiter. Là, j'ai fait venir il n'y a pas longtemps une marque brésilienne qui s'appelle Inoar, qui est extrêmement intéressante. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à chercher, à découvrir.
Alors, quel est votre souhait pour 2018
Déjà, le salon donc Studio Anaïs porte très, très bien. On a commencé à construire une vraie crédibilité, un vrai professionnalisme qui est reconnu maintenant avec le niveau de remplissage du salon. On voit que ça fonctionne bien et qu'on a quelque part fait la preuve de ce concept. Donc, continuer à grandir sur ce concept-là. Peut-être un deuxième lieu.
C'est beaucoup de bouche à oreille, du coup
C'est beaucoup de digital.
Digital, hein.
Les deux. Ouais. Du bouche à oreille et du digital. Et depuis qu'on a commencé vraiment à travailler sur le digital, ça fait une énorme différence. Et là, on a une campagne de vidéo là qui va sortir. Donc, avec le média Fresh, on a fait cette première vidéo en octobre qui a été un véritable buzz. Et on a tourné ensemble une quinzaine de rendez-vous qui sont des réponses à des questions cosmétiques. La première est sortie en décembre et a fait aussi une très très beau score avec plus de 500 000 vues. Et il y en a 14 autres à suivre. Donc, j'attends de voir. L'idée, c'est de continuer ce chemin. On a pousser la porte, engager la route, engager le chemin. On est sur cette route et maintenant on va continuer. On va continuer à montrer que c'est possible. On va continuer à grandir. On va, je l'espère, commencer à prospecter pour un deuxième lieu. Et un autre gros projet un peu secret, mais dont je parlerai à mi-année, que je suis en train de préparer maintenant, justement pour accélérer la formation avec des moyens beaucoup plus modernes et beaucoup plus rapides et accessibles.
Très bien. Bon, bah, on a hâte alors.
Non, c'est important parce que si, pour le dire clairement, j'ai donné de mon temps et beaucoup de mon énergie au système classique, donc écriture de diplôme, etc. Et je vois que ça répond, mais très lentement et je n'ai aucune garantie sur le contenu. Donc, c'est pas mon genre d'attendre que quelque chose se fasse et je vais continuer à travailler de façon proactive et développer mes propres formats et continuer à les répandre de façon la plus moderne et rapide possible. Donc, je pense que voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est de pas. Je n'attendrai pas.
Vous prenez les devants, quoi qu'il arrive, vous continuez dans votre.
J'ai donné sa chance au système.
Ouais, voilà.
Il réagit extrêmement lentement.
Très lentement.
Je continue sur d'autres options et il y a beaucoup. Le 21e siècle est très riche en options.
Ouais,
donc, je ne suis pas inquiète.
Ouais, c'est sûr. Voilà,
on va le faire.
Justement, je me posais la question, vous êtes beaucoup sollicité par des coiffeurs, par exemple, qui ont envie de se former
ouais.
Et,
ouais. Mais suite à la vidéo d'octobre, j'ai été contactée par des gens de toute l'Europe,
d'accord.
Y compris du Canada,
d'accord.
Même d'Algérie, de Guadeloupe, des Antilles et de Saint-Martin. Et donc, la problématique de la formation à distance est clairement posée. Et aussi, il faut penser qu'un coiffeur, même dans le Gers, hein, des personnes m'ont appelé du sud de la France, un coiffeur en exercice n'a pas le temps de fermer son salon pour venir une semaine ou deux semaines à Paris se former à l'ensemble des gestes. Donc, avoir des formations en présentiel, c'est bien, mais avoir des formations à distance, c'est encore mieux. Et il est largement temps de passer sur ce format.
Il est largement temps, oui, bien sûr.
Et ça permettra de toucher un public extrêmement large, de démocratiser ce savoir et de ne pas faire que ce soit quelques personnes sur Paris qui peuvent dégager un peu de temps pour venir se former, mais un maximum de gens. Moi, ce que je veux, en fait, pour 2018, c'est qu'on passe à la vitesse 2 et qu'il y ait un maximum de gens qui se forment rapidement parce que même si Studio Anaï, c'est un très beau concept, je ne vais pas ouvrir 150 salons Studio Anaï dans l'année. Et puis, la formation ne suivrait pas. Parce qu'il faudrait 150 équipes de coiffeurs. Donc, de toute façon, la vitesse dépendra du niveau de formation des coiffeurs. On en revient toujours là.
Toujours là.
Et on le voit bien avec Ethnicia, qui avait voulu lancer une franchise, donc avec Absat aussi. Elle est tombée par la qualité. Parce qu'on peut ouvrir des enseignes, mais si la qualité ne suit pas, à un moment donné, le système s'effondre. Donc, ça ne sert à rien de vouloir se multiplier à vitesse grand V. On m'a sollicité pour ouvrir des franchises, etc. Tant que les gens ne sont pas formés, c'est des coquilles vides.
C'est
une promesse qui n'est pas tenue.
Bien sûr.
Donc, ça ne sert absolument à rien. Il faut absolument continuer sur la formation.
Bon, bien, c'est entendu. Merci beaucoup, Aude.
Merci, Chantal. Très bonne journée.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur iTunes et SoundCloud et profitez-en pour nous laisser un avis et surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. N'oubliez pas également de suivre Beauty Toaster sur sa page Facebook et sur Instagram. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.